Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On espère vous apporter un petit peu de fraîcheur, voilà, durant ces trois heures de direct avec tout d'abord Charles Magnin, avec la journaliste indépendante de Dijon, Emmanuel Dancourt, avec le journaliste Fred Hermel, la légende vivante de la télévision, Jacques Legros qui a tombé la veste. Ah oui.
Ah,
vous ne l'avez pas gardé, Jacques.
Là, alerte non, orange.
Je voulais ressembler à Fred qui est mon modèle.
Première fois en 40 ans de carrière que Jacques Legros fait tomber la veste. Voilà. C'est sur RMC Story. Venez nous voir, canal 23 de la TNT. Venez voir cette image rare,
oui.
Cette image exceptionnelle. Comme
ce tournant dans l'histoire de la télé.
La canicule a quand même du bon. Voilà, on a essayé de trouver un petit bienfait. C'est celui-ci. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC à 13h30. On parlera du procès pour viol d'Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain. Renvoie en procès pour viol. Est-ce que le PSG doit continuer à le faire jouer? C'est la question qu'on vous posera à 13h30. Appelez-nous au 3216 et puis sur le WhatsApp, Charles.
Le 06 12 424 424, c'est le numéro sur WhatsApp pour tous vos messages qu'on va lire en direct.
14h, autre débat, médecin, resto, coiffeur, est-ce que il faudrait demander un acompte pour éviter les lapins, les rendez-vous non honorés? Est-ce que vous pourriez payer par exemple 25 € avant d'aller chez le coiffeur? Eh bien, on en parlera à 14h et puis il y aura RMC Santé également avec notre médecin urgentiste Aurel Gage. On parlera des piqûres de moustiques. Eh bien, ça aussi c'est la saison.
RMC Estelle Midi,
le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC, le baccalauréat est-il trop difficile cette année? Les épreuves de maths et de physique-chimie ont été pointées du doigt par les lycéens, des pétitions ont été lancées, elles ont recueilli plus de 15 000 signatures. Et pour Jean-Loup Bonamy, le professeur de philo des GG, ces plaintes sont scandaleuses.
Le bac est déjà bradé, il n'a plus aucune valeur, il te permet juste d'entrer sur le marché du chômage si tu as juste ton bac. Donc je ne vois pas ce qu'ils réclament ni de quoi ils se plaignent, puisque leur bac, ils vont l'avoir.
Si ça tenait qu'à toi, tu les sacrerais
encore
plus.
Ah oui, oh que oui, je désanonymiserais les copies pour voir le nom de ceux qui ont signé, et vraiment, ils devraient ne pas avoir leur bac et être interdits d'examen pendant 10 ans.
Le baccalauréat est-il trop dur? Jacques Legros, ça vous fait sourire. C'est vrai qu'on ne pensait pas un jour poser cette question.
Ah non, ça franchement, alors là, je tombe de ma chaise.
Entre deux guerres, c'était dur, Jacques?
Non mais écoutez, ça veut peut-être dire que voilà, on a haussé le niveau. Donc,
on n'a pas haussé le niveau, on a baissé le niveau. Donc aujourd'hui, le bac, je ne vais pas dire pour ceux qui le passent en ce moment qu'on le donne, mais enfin... presque, on est tolérant avec les candidats. Alors s'il faut le donner avec un chèque en plus, là je m'interroge vraiment.
Non mais là, en fait, à mon avis, les lycéens, ils s'attendaient à une épreuve plutôt, comme d'hab, donc facile, et puis finalement, ils ont eu une mauvaise surprise, et donc ils se plaignent.
Moi, à ma génération, il y avait eu la même chose. L'année de mon bac, des pétitions et tout, parce que le sujet de maths avait été trop difficile. En fait, c'est pas que c'est trop difficile par rapport aux années précédentes, etc. C'est que c'est injuste. C'est-à-dire que pendant l'année, on nous a dit, voilà, les trois points essentiels à connaître et sur lesquels vous serez testé le jour du bac. Et puis finalement, c'est le quatrième petit truc qu'on n'a pas fait, que la moitié des élèves
mais
ont pas
réalisé. Hein.
Parce que le prof a dit, non, mais ça, il y aura pas au bac, etc. Et finalement, ça tombe là-dessus.
Ouais, t'as un mauvais prof, t'as un mauvais prof, ça arrive.
Non, c'était pas tous les profs étaient d'accord à l'époque. Il y avait eu, et du coup, à chaque fois, on se retrouve avec le lendemain, l'éducation nationale qui dit, oui, c'est vrai qu'on a fait, on est allé un peu trop spécifiquement sur tel sujet, donc on fera une correction plus sympathique. Et du coup, on assure quand même les 95% de réussite. Mais il y a toujours ce sentiment d'injustice d'avoir révisé les trois notions importantes, et puis finalement, ça tombe sur le petit truc que personne n'a révisé.
Eh ben oui, la prochaine fois, tu réviseras tout. Voilà. C'est un apprentissage de la vie, en fait, Charles. Voilà,
c'est toute la manière d'apprendre dans ce pays qui ne va pas.
Voilà, merci.
Moi, j'ai eu un prof de maths intelligent au bac, qu'ils écoutaient. Je sais très bien que les maths vous en foutez complètement. Alors je vais vous donner on va travailler comme des malades de façon pavlovienne les quatre sujets qui vont tomber, des quatre en tout cas. Et on savait tout faire. On a tous eu 18 en maths au bac.
Mais si ça tombe sur le cinquième.
Et tant pis, t'as pas fait les impacts.
C'est ça qui dénonce là les élèves, c'est de dire on nous a demandé de réviser ça et puis finalement le sujet concernait pas les révisions qu'on nous a demandé
et
de faire.
À notre époque on nous demandait de tout réviser, on faisait des impasses et on savait que malheureusement tu fais une impasse, c'est la roulette russe, c'est-à-dire que tu peux quand même tomber sur ton impasse, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est comme ça. Et donc si tu veux pas tomber sur ton impasse, tu révises tout. En fait tout simplement.
Ils sont des milliers à signer cette
pétition. Ils sont 15 000, ils sont 1 million à passer le bac, ça va.
On ne passe pas la physique au bac, je pense que c'est
en plus oui. De toute façon comme Parcoursup est déjà passé, il faut juste qu'ils aient le bac.
Surtout avec le contrôle continu. De mon temps, tu jouais tout sur l'épreuve, la dernière épreuve.
Oui,
les notes de l'année pouvaient influencer les commentaires et les notes de l'année et les recommandations du conseil de classe pouvaient influencer un jury si te manquait un ou deux points. Aujourd'hui, la grosse partie du bac, c'est le contrôle continu.
Mais donc, ça reste important.
On va pas pleurer. Non,
mais vous vous souvenez tous de vos notes dans chaque matière.
Ah oui, bien sûr. Complètement.
Vous voyez bien que ça marque à vie. Moi, je n'ai toujours pas dit. Quand on est sur l'année où, mince, le sujet a été mal fait, visiblement, il y avait une erreur dans un énoncé et tout.
Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que...
Ça peut être frustrant pour ceux qui ont bien bossé.
Tu loupes ton épreuve à notre époque.
Quand t'as bien bossé.
Tu peux louper ton bac.
Là, il y a moins de risques.
Ton épreuve là, si t'as bien travaillé toute l'année, t'as pas de problème. Je sais, moi, j'ai encore en travers de la gorge. Ma note d'espagnol au bac.
Ah, voilà. Vous avez eu combien,
j'ai eu 12 alors que j'avais 18 de moyenne. Non, mais ça, même ma prof était écœurée.
Un scandale.
Ah ouais.
Un scandale. Rendez les points.
Ah oui, j'ai toujours pas digéré. C'est ça, oui. J'en fais encore des cauchemars, madame.
Ah bon? Ok. Bon.
Et t'aurais signé une pétition à l'époque.
Alors là, mais non, mais
voilà.
J'avais bien le contrat sur la prof.
Promo 92. La preuve de maths n'a jamais été aussi facile. Je crois que je suis la seule à avoir eu 8 sur 20, qui était ma meilleure note de l'année en maths. Vraiment un blocage sur les maths. Tout le monde a eu 20 sur 20. Et par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir, indépendamment des maths, d'excellents profs qui avaient prévu absolument tous les sujets. Bah oui. Et je vois, en ayant topé des 18 et des 19 dans certaines matières, pas de mention. Et mes gamins, qui ont à peine révisé leur bac, ils te topent des mentions très bien, des mentions bien. On va pas se mentir, le bac aujourd'hui il est donné, aujourd'hui c'est sur Parcoursup que ça se fait, c'est sur l'année aussi, enfin c'est rare que je dise c'était mieux avant, mais franchement c'était mieux avant.
Donc on va pas les plaindre, vous qui avez des enfants qui avaient déjà passé le bac, et un petit dernier qui sera bientôt en âge de le passer... Par exemple, le petit dernier, il vous dit, admettons, maman, l'épreuve de physique chimie a été hyper dure, je vais signer une pétition, vous lui dites quoi?
Je vais lui dire, tu te remets à bosser. Non, mais c'est pas possible. Il le fera pas, il le sait que c'est pas possible, que c'est pas jouable, et bosser, quoi. Mais je l'ai vu, les jumeaux, ils ont à peine bossé, ils se tapent une mention bien. C'est dégueulasse, quoi.
À notre époque, mention bien, c'était très rare.
C'était énorme.
Et mention très bien, t'en avais un dans l'académie, quoi.
Ça n'existait pas.
J'ai raté. Bien. À peu de choses, mais je l'ai raté.
Tu as mention bien?
J'ai eu mention assez bien. C'est le drame de ma vie. Ça,
Moi, pas de mention.
Tu l'as raté de loin. Aussi. Alors, hein.
Non, je l'ai raté d'assez près, mais c'est toujours un petit. Ça me fait toujours un petit quelque chose.
Pareil.
Mais j'avais pas beaucoup travaillé non plus. Voilà. Donc il faut rendre à César, etc.
Mais j'entends ce que dit Charles, parce que moi, la note de philo, j'avais 18 toute l'année, et là, d'un seul coup, on tombe sur un truc qu'on n'a jamais vu. D'où ça sort? Rousseau, on l'a absolument jamais vu.
Moi, j'avais 5 toute l'année, j'ai eu 10.
Tu fais ce que tu peux.
Il y a des miracles.
Mais là, il y a des gamins qui ont eu 15 toute l'année en physique qui vont avoir 5 parce que c'est.
Eh bien, oui, mais leur
En effet, ils auront tous leur bac, je suis d'accord, on leur donne tous, mais ils n'auront pas la mention et toute leur vie. Et excuse-moi. Comme Estelle, dans 30 ans, ils diront je suis tombé sur l'année où la physique, on s'est fait avoir.
Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais le truc, c'est que, en vrai, les épreuves, elles sont sur un programme. Tout le monde a le même programme, en tout cas dans les écoles sous contrat. Oui. Donc, de toutes les manières, ils doivent apprendre leur livre. Leur livre en entier, leur programme en entier. Donc, encore une fois, c'est parce qu'ils ont fait une impasse où le prof leur a dit que. À un moment.
Je me souviens que les 3 derniers mois, on passait la moitié des cours à dire au prof, mais ça sera au bac, ça ou pas?
Oui, voilà. Mais t'as pas 10 000, profs qui ont dit tiens, faut faire l'impasse là-dessus. S'ils avaient bien bossé, ils seraient pas là.
Après, t'as la chance.
Oui,
moi, j'avais eu au bac blanc, au vrai bac, le même sujet de géo que le bac blanc. Alors qu'on avait retravaillé, etc. Donc là, après, c'était. Après, il y a toujours une.
Vous avez eu combien en histoire géo?
J'ai eu une bonne note, je crois que j'avais eu 15 ou 16 ou comme
vous
ça.
Vous vous en souvenez pas tout à fait, quoi.
Non, mais c'était une très bonne note.
On se souvient plus des mauvaises notes.
Non, moi je me souviens que de. Moi, c'est simple, mais j'ai eu 2 mauvaises notes. 8 en philo, ça m'a toujours. Et 8 en maths, mais ça, 8 en maths, c'était une très bonne note pour moi.
Oui, pareil.
Bravo. Le morning RMC, préférez-vous un meilleur salaire ou du temps libre? C'est une première depuis le Covid. La rémunération redevient le principal critère d'attractivité au travail. 6 Français sur 10 préfèrent gagner plus d'argent plutôt que de bénéficier d'un meilleur équilibre de vie. Un changement de mentalité que nous explique Patrick Lévy-Weitz, président de la Fondation Travailler Autrement.
C'est sur les contraintes évidemment économiques, l'augmentation des dépenses courantes, alimentation, logement, évidemment énergie hein, dans la crise aujourd'hui, qui fait que depuis 4 ans, on a un renversement absolument complet, très brutal, hein, puisque c'est en 2 ans que ça s'opère en réalité, et qui montre bien que les priorités des Français changent, mais les priorités parce que y a pas le choix, et qu'il faut évidemment subvenir aux besoins de sa famille, et que cette question est redevenue une question centrale de la société française.
Alors, tu préfères un meilleur salaire ou du temps libre, Jacques Legros? C'est vrai qu'à un moment, tout le monde était là à vouloir un meilleur équilibre de vie, mais ça a changé. Là.
Ah oui, moi je préfère un meilleur salaire.
Hein. Oui. Pour avoir un meilleur équilibre de vie derrière.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on peut revoir un petit peu...
Vas-y Jacques. Non, mais meilleur salaire.
Oui, meilleur salaire.
Ouais. Vous comprenez qu'on soit en train de revenir justement sur ce souhait que beaucoup de Français ont eu après le Covid, c'est d'être plus proche de la famille, d'avoir peut-être plus de loisirs, plus de temps libre, Fred Hermel.
On est revenu à la normalité, en fait. Et d'ailleurs, l'un des grands drames des 35 heures, c'est que les heures supplémentaires n'étaient plus payées de la même manière. Et c'était un drame pour beaucoup de gens, des petits employés, des ouvriers.
C'était plus défiscalisé. Hein.
Bah, ouais, c'était la différence. Donc en fait, c'était un vrai plus pour les gens qui gagnent pas beaucoup.
Oui.
Mais et aujourd'hui, le gros de la société française ne gagne pas beaucoup. On l'a souvent expliqué. Les salaires de la classe moyenne en France sont bas, donc la classe moyenne s'appauvrit. Donc, à quoi ça sert d'avoir des loisirs si tu peux pas en profiter parce que t'as pas l'argent?
Je pense que
loisirs de plus en plus chers, d'ailleurs.
Voilà. Et moi, de toute façon, moi, j'ai toujours eu ça. D'ailleurs, j'ai souvent pris très peu de vacances parce que je préférais gagner de l'argent à prendre des vacances, quoi.
Je pense qu'il y a moins d'ambition dans la génération trentenaire aujourd'hui. Donc, moins d'ambition, moins de besoin de salaire, enfin d'argent.
Moins d'argent, oui.
Au profit d'une vie plus libre. Mmh.
Oui, mais ça, c'est en train de changer.
Ça, changer, ouais.
Justement, Emmanuel Dancourt, est-ce que vous pensez que le travail peut redevenir, en fait, le moteur de la société? C'est vrai qu'on l'avait un petit peu perdu. Et là, on a l'impression que, les gens, mais ça, c'est aussi parce que tout le monde s'appauvrit, hein. Il y a de la perte de pouvoir d'achat. Et donc, il faut gagner sa vie, tout simplement.
Moi, je fais la même réponse, hein, le salaire, hein. Mais bien sûr. Évidemment, pour accéder à la propriété le plus jeune possible, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Pour finir de payer son emprunt quand t'as 45 et 50 ans et non pas 70, pour pouvoir manger, pour pouvoir circuler avec un gasoil et une essence qui a un peu baissé là, mais qui reste quand même très haut. Oui, évidemment qu'on revient à l'argent. Tout revient à l'argent pour toutes les raisons que vous avez dites.
Les GG ce matin sur RMC. Faut-il licencier les consommateurs de drogue en entreprise? Tout est parti du Premier ministre qui souhaite tester ceux qui travaillent dans les ministères. Aujourd'hui, l'usage de drogue en entreprise est passible d'une amende de 200 euros. Mais pour Sandrine Pégan, l'avocate des GG, il faut taper encore plus fort sur les consommateurs.
Moi, je pense que oui. Et je trouve que ça serait une mesure qui serait même préventive, parce que du coup, tu aurais la peur de perdre ton emploi, donc la peur de perdre ton salaire, donc la peur de perdre ton toit, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement un fléau que pour moi, et encore plus pour les membres du gouvernement où il y a un devoir d'exemplarité, tu dois pouvoir constater que ton salarié ne soit pas en état de...
Est-ce que tu pourrais dépister dans ton cabinet ou pas?
Ah oui, moi ça me poserait aucun problème. Si c'était autorisé, oui, je le ferais.
Jacques Legros, est-ce qu'il faut faire plus de dépistage en entreprise et virer ceux qui seraient positifs?
On en est là. C'est grave. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres moyens, c'est vrai que c'est un nouveau fléau, ça, et qu'on retrouve dans les accidents de la route, qu'on retrouve dans plein de choses. C'est un nouveau fléau. Alors, quand face à ce fléau, quelles sont les solutions? Moi, personnellement, j'en ai pas. Alors, pourquoi ne pas dépister? Et systématiquement, je crois que ça va même commencer par les membres du gouvernement.
Ils l'ont fait dans les cabinets ministériels, mais bizarrement, nous n'avons pas les résultats.
Oui, ça, c'est de la com. Mais oui, s'il n'y a pas d'autre solution, dépistons.
Bien sûr. Oui, mais ça veut dire que tu vas encore plus loin, finalement, que la police dans la vie hors entreprise. Oui. Si tu prends de la drogue chez toi et que c'est illégal, bien sûr, mais que la police ne vient pas, il n'y a pas de problème. Tandis que là, en entreprise, en fait, c'est ton employeur qui donc ferait la police et irait encore plus loin.
Et alors, ça s'appelle le droit du travail, c'est pas grave. C'est un autre droit qui est le droit du travail. Moi, je suis je n'ai aucune tolérance pour ce sujet-là, pour les drogues. Et surtout, c'est très connu chez les chirurgiens. Moi, je ne veux pas me faire opérer par un chirurgien ou une chirurgienne qui a consommé. Or, on sait très bien que c'est une profession où ça consomme énormément chez les internes qui le disent. Hein, ils s'ennuient, donc il y a de la consommation, etc.
Dans les internes, s'ennuie pas, Emmanuel Dancourt. Non, mais les internes, ils s'ennuient pas. Ça, c'est pas possible. Ah, ben non, mais ça, c'est pas possible.
Il y en a qui ont dit qu'ils travaillent.
Ils font 40 heures de garde d'affilée. Je peux te dire qu'ils ne s'ennuient pas.
Ils disent que des fois, ils s'ennuient et que c'est un moment de consommation. Ça a été dit.
Que ce soit parce que justement.
Pour tenir le coup,
mais
il y a différents types d'internes et de vie d'interne. Mais cela dit, moi, je veux pas être opérée par quelqu'un qui a pris de la drogue.
Donc, les chirurgiens prennent pas de la drogue.
Non, mais c'est quand même une consommation qui est très répandue. C'est connu, c'est documenté. Donc oui, et que ce soit en entreprise, les entreprises ont parfaitement le droit.
Le problème, c'est que c'est banalisé. C'est ça le problème. C'est qu'on a banalisé cette consommation-là. Comme à une époque, on avait totalement banalisé le fait de fumer. Hein. Et aujourd'hui, ça a évolué, ça a changé.
Oui, c'est vrai.
Et la drogue, il faut qu'on...
Oui, mais tu peux fumer, ça n'engendre pas d'effet néfaste. Ouais. C'est-à-dire que tu peux fumer avant de conduire, fumer de la cigarette, non, mais... hein, je te parle. Il n'y aura pas d'effet. Tu peux fumer une cigarette avant d'opérer. Bon,
moi,
c'est pas bien.
Ça
ne gênera pas ton geste.
Il n'y a pas une façon douce d'être contre. T'es contre ou t'es pour. Ouais. Moi, je suis contre. Et contre, c'est 100%, pas 99%.
Alors, quelqu'un qui a fumé un joint un dimanche. Alors, sur le lieu de travail, il y a quelqu'un qui consomme de la drogue sur le travail. Ça, c'est logique. Mais quelqu'un. Voilà, c'est logique d'être viré. C'est normal. Mais quelqu'un qui a fumé un joint un dimanche. Bon, ok. Et il est contrôlé lundi. Bon, il est positif. Mais quelqu'un qui prend des murches tous les week-ends. Dans ces cas-là, et qui est dans un état second tout le week-end. Tu vois, et là, c'est autorisé, ça.
C'est pas bien.
Non, c'est pas bien, mais est-ce qu'il va être viré le lundi, alors que quand t'as picolé tout le week-end, est-ce que le lundi, t'es en forme pour faire ton travail?
Est-ce que vous êtes toujours arrivé en forme au travail? Un lundi, Jacques, ou un dimanche, franchement?
Regardez-moi le vendredi.
Non, mais là, aujourd'hui, d'accord.
Ah oui, le vendredi, mais parce que tu t'es remis toute la semaine.
Est-ce qu'il n'y a pas un jour où vous êtes arrivé le matin au bureau où, franchement, bon.
T'avais fait la
bombe. Vous êtes arrivé et vous n'étiez pas dans votre meilleur état?
Non. Je l'affirme.
C'est
non.
Vrai bah bravo Jacques. Bah là, vous êtes parfait.
Je suis pas un héros, mais de toute façon, je ne comprends même pas qu'on fume du tabac. Alors de autre chose et la drogue. C'est en moi ça. J'ai peur de toute perte de contrôle.
D'accord.
Alors je suis dans le surcontrôle et c'est un gros défaut. C'est un gros défaut, hein. Mais j'ai jamais. Mon fils me dit papa, tu as déjà été ivre? Jamais.
D'accord.
Jamais.
Non, mais
parce
très bien,
que
bravo.
Je ne pourrais pas supporter l'ivresse, et donc je sais m'arrêter à temps.
Et de ne pas te souvenir.
Et,
oh là là,
et tout horreur. Simplement pour garder le contrôle de moi-même.
Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Comment dire, les effets psychotropes de la drogue. Fumer un joint le samedi soir, ça n'a aucun effet sur votre travail du lundi matin. En tout cas, le lundi matin, vous n'êtes pas défoncé. En revanche, si on vous fait un test, on trouvera les traces.
Mais voilà, c'est ça.
Ce sera
j'ai bien compris.
Et du coup, tout l'enjeu, c'est est-ce que, je sais pas, moi, la caissière, l'employé de bureau qui a fumé un joint le samedi soir, qui arrive au bureau le lundi matin.
Je vous rappelle que c'est illégal, de fumer.
C'est illégal, évidemment, il ne faut pas le faire. Mais est-ce que c'est à son employeur d'aller le traquer le lundi matin?
C'est la question.
C'est tout l'enjeu.
Si ça n'a aucune incidence sur son travail, c'est comme tu prends une cuite le samedi soir, ça vient.
Mais on parle pas des métiers dangereux, évidemment, dans le transport, etc.
Le chauffeur routier qu'on a eu l'autre il y a deux jours,
évidemment,
voilà, un collègue a été contrôlé, il a été viré, voilà, mais c'est normal.
C'est normal. Si tu transportes des gamins ou même.
Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand l'État demande aux entreprises de se substituer à son rôle, quoi. Voilà. Et là, c'est quand même une défaite de l'État. Et vous avez vu ce qui se passe là, qu'on a quand même le sentiment que dans ce drame qu'est le narcotrafic et la France est en train, dans certaines parties, de devenir un narco-État, on a l'impression que l'État sait qu'il a perdu la partie et que maintenant il refile le bébé aux entreprises.
Et ça c'est pas
très sain dans une démocratie.
Pas faux.
On termine en musique le zapping le morning RMC avec le nouveau titre de la chanteuse belge Adèle, ça s'appelle Dis-le. Écoutez les précisions de Victor Porcher ce matin sur ce titre très attendu.
C'est une chanson, oui, mais c'est surtout un appel à s'affirmer, à libérer sa parole. Ça nous rappelle aussi Balance ton poids à l'époque avec Angèle. Une chanson en sonorité électro, c'est sa nouvelle direction.
Oui, alors c'était pas Adèle, mais Angèle.
C'est l'autre.
Je suis tellement calée en musique.
Angèle, c'est plus proche qu'Adèle.
Angèle, c'est la belge.
Alors, vous allez l'acheter cet album d'Angèle? Jacques Legros.
J'ai le droit, non?
Oui, mais vous écoutez quoi comme musique?
Oh, plein de musique. Moi, ça va du classique au jazz en passant par la variété. Plein de choses.
La variété, mais vous écoutez quoi en variété?
J'adore. Et pourquoi pas?
Mais c'est bien Marchumann. Hein,
ouais. Non, c'était comment? Je sais plus.
Oui.
Et mais moi, je suis un fan absolu de Véronique Sanson, comme je l'étais de Michel Berger, comme je l'étais de, enfin bon, de plein de chanteurs français et étrangers. Hein. Elton John, pour moi, c'est Dieu sur la terre. Et ainsi de suite. Je vais pas tous les citer.
Et en nouveauté?
En nouveauté.
Et en moins de 50 ans. En moins de 60 ans, il y a quelque chose.
Mais qu'elle est désagréable. Mais qu'elle est désagréable.
Fred Hermel.
Non, c'est de la très bonne chanson, hein, j'aime. Oui. Ouais, franchement, c'est très bien produit, la musique est bien, elle chante très très bien. Les paroles sont parfois un peu redondantes, elle est toujours un peu sur le même thème, mais c'est une très bonne chanteuse. Je sais pas, il y a quand même.
Ah, vous êtes sensible à la variété aujourd'hui.
Ah oui, non, mais. Très bien. Ouais, non, mais c'est. Et puis, du coup, de la musique, c'est du sérieux. Je veux dire, il y a suffisamment d'aubes aujourd'hui pour pouvoir reconnaître qu'Angèle, c'est de la très très bonne musique. Après, il y avait des petits problèmes avec le fisc français, tiens, sur la résidence. Oui, oui. Ah, oui, non, sur la résidence entre la Belgique. Mais bon, le problème, c'est que le fisc français dit j'ai l'impression que vous vivez beaucoup à Paris, madame.
C'est bizarre, quand même.
Bah oui, voilà. Donc, il faut toujours se méfier quand on donne des leçons dans ses chansons.
Toujours se méfier du fisc.
Non, pas du fisc. Il faut toujours se méfier quand on donne des leçons sur le monde, sur la vie dans les chansons, d'être irréprochable dans sa vie.
Moi j'adore Angèle. C'est une chanteuse Me Too. Quand elle a sorti Balance ton quoi, ça a été complètement repris
par les.
Une chanteuse Me Too, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteuses qui font des chansons sur les violences sexistes et sexuelles. Ah. Balance ton quoi, c'était ça. C'est devenu un hymne. Et nous à Me Too Media, on a une remise de prix Me Too Media le 6 novembre au Théâtre de la Concorde. On va remettre le prix de la meilleure chanson. On croule. Tous les super chansons, que ce soit du rap, que ce soit de la variette, on croule sur ces chansons incroyables qui parlent de ces sujets-là. Donc c'est ce que j'appelle les chansons Me Too, et elle, c'est vraiment une égérie. Et merci Angèle.
Ah bah tiens, est-ce qu'on parle de Me Too, vous allez prendre la parole dans un instant. On va parler d'Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit continuer à faire jouer son défenseur? On en débat dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h30, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Charles Magnin, avec Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante de Dijon et présidente du mouvement MeToo Media. On est aussi avec Fred Hermel, journaliste, et puis la légende vivante de la télévision, Jacques Legros. Et tout de suite, on va poursuivre Estelle Midi avec la décision du jour. Elle est tombée ce matin, c'est celle de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le renvoi en procès pour viol du défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. L'accusation date de février 2023. Le procès devrait se tenir dans plusieurs mois et le joueur marocain conteste la version des faits de la plaignante, Charles.
La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit, si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. Voilà le message tweeté ce matin par Achraf Hakimi en apprenant la nouvelle. J'attends ce procès depuis le premier jour. Enfin, je pourrai parler. Voilà ce qu'écrit le joueur du PSG qui réfute toutes les accusations. Pour rappel, à l'époque des faits, la jeune femme raconte avoir fait la connaissance du joueur sur Instagram et s'être rendue chez lui dans un VTC qu'il avait commandé. Elle déclare que le joueur l'a embrassée puis touchée sans son consentement avant de la violer. Version contestée par Achraf Hakimi et son avocate qui s'appuie notamment sur des SMS révélés par l'équipe. La jeune femme y échange avec une de ses amies pendant cette soirée. Amie qui lui suggère, je cite, d'arriver en mode femme fatale. On va aller le dépouiller, écrit-elle. Selon l'avocate du joueur, la multitude des éléments à décharge révélés par l'enquête aurait, dans n'importe quelle autre affaire, conduit au prononcé d'un non-lieu. À l'inverse, la défense de la jeune femme parle du soulagement, de l'espoir de celle-ci en vue du procès. Un procès pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine dont on ne connaît pas encore la date. En attendant, Achraf Hakimi, capitaine du Maroc, affronte ce soir l'Écosse. Et depuis le début de cette affaire, il peut compter sur le soutien du Paris Saint-Germain qui n'a pas encore réagi depuis ce matin à l'annonce de son renvoi en procès.
Et qui a priori ne réagira pas. Le Paris Saint-Germain. Hakimi renvoyé en procès pour viol, le PSG doit-il continuer à le faire jouer, Emmanuel Dancourt?
Non, évidemment, ça c'est forcément non. Nous, on est très en retard en France sur ce genre de questions. Si vous vous souvenez de l'affaire Greenwood, qui est à Manchester United, il a eu des accusations de violence conjugale, si je me souviens bien, et il a été viré tout de suite. Qui le récupère? L'Espagne d'abord, la France ensuite. De toute façon, en Angleterre,
l'Olympique de Marseille.
Quand bien même, il n'y a pas de procès. Quand bien même, et d'ailleurs, elle a retiré sa plainte. C'est fini. Ils n'ont aucune tolérance là-dessus et c'est toujours nous qui récupérons les footballeux, les rugbyman en France. Alors nous, c'est tolérance totale. Et pourquoi il me semble que non, on va pas faire le procès, il n'a pas eu lieu. Et cet homme-là, il est présumé innocent, on va quand même le dire. Donc on peut pas se placer sur même si on peut accorder clairement une présomption de crédibilité aussi à la victime. Mais moi, je trouve qu'on peut pas faire comme si de rien n'était. Il dit c'est parce qu'il est connu que la justice est plus sévère. Bon, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe plutôt à l'inverse, et on peut peut-être faire confiance à la justice qui va l'emmener au procès. Et donc, il y a ce qu'on appelle des indices graves et concordants. Ça ne sort pas de nulle part, cette histoire-là. Mais moi, je me demande quelle image le club renvoie, finalement, de le soutenir à fond comme ça. Alors, ils le soutiennent aussi à fond parce que c'est visiblement...
Ils ne le soutiennent pas. Très... Pour l'instant, en fait, ils ne communiquent pas. Mais par exemple, alors, Achraf Hakimi, c'est le vice-capitaine du Paris Saint-Germain.
Il dit qu'il est très soutenu par le club. Il a dit...
Oui, mais qu'est-ce que tu... il ne va pas dire l'inverse.
Non, il dit qu'il est très soutenu par le club parce que le club me connaît. Alors d'abord, on connaît jamais quelqu'un. Dans 91% des cas, le violeur, c'est quelqu'un que tu connais. Bien sûr, c'est sa parole à lui, c'est sa défense dans les médias actuellement. Et il a parfaitement le droit de s'exprimer. Mais on renvoie pas quelqu'un dans une juridiction criminelle sur une simple rumeur. Les magistrats ont considéré qu'il y avait suffisamment d'indices. Et puis, il faut dire quand même que le PSG, c'est quand même pas n'importe quel employeur. Quand même, c'est un employeur qui est très en vue.
C'est un employeur privé.
Lui, il est pas. C'est pas un salarié anonyme. C'est une personnalité qui est suivi, c'est un modèle, il a cette histoire de modèle qui est suivi par des millions de personnes et des millions de jeunes, notamment la grande banderole, excusez-moi, en janvier dans les tribunes du PSG, c'était ni fait ni affaire, c'est quand même, il est quand même présumé violeur, et qu'on veuille ou non, et je trouve que ce club, eh ben, il devrait montrer l'exemple, il devrait mener une campagne sociétale.
Il a été reçu par Emmanuel Macron il y a quelques jours.
Il était à l'Élysée, mais c'était démentiel. Il y avait Gérard Darmon aussi qui lui a des plaintes et des accusations, en tout cas.
Mais on sait bien que ce gouvernement,
exactement, était reçu, voilà, quand même. Voilà, c'est pas lui.
Et après on nous dit pourquoi les victimes elles portent pas plainte, pourquoi il y a 9 femmes sur 10 en France qui portent pas plainte. Mais attendez, ce footballeur là il est reçu par Macron à l'Élysée dans un lieu de pouvoir, et en plus on le garde. Mais vous imaginez Jeanne, là, la victime, dans quel état elle doit être de se dire il vit sa vie pépère, moi il m'a démoli ma vie. C'est horrible en fait l'image qu'on renvoie.
Mais pour l'instant il n'y a pas eu de procès.
Mais pour l'instant il n'y a pas eu de procès. Non, mais il y a un principe de précaution quand même. Le PSG est employeur. On est, alors ça s'est pas passé dans le cadre du boulot. Ça, mais le PSG est employeur, il y a quand même un principe de précaution qui doit être appliqué, puisque dans le droit du travail la présomption d'innocence n'existe pas. Et moi je trouve qu'il y a un problème de décence, il y a un problème d'éthique, il y a un problème d'image, il y a un problème de ce qu'on renvoie auprès des jeunes. Voilà, moi il y a un énorme problème.
Fred Hermel, est-ce que le Paris Saint-Germain doit continuer à le faire jouer, ou alors le suspendre jusqu'à ce que le procès ait lieu? Ça peut avoir lieu dans quelques mois, voire plus d'un an. Le procès. Ou alors plus symbolique, mais quand même, je le disais tout à l'heure, Achraf Hakimi, il est vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Il est, on va dire, deuxième capitaine. C'est-à-dire que quand Marquinhos n'est pas là, il peut avoir le brassard. Est-ce qu'au moins, symboliquement, le Paris Saint-Germain peut au moins lui enlever, au moins en signe de faire quelque chose sans le suspendre plusieurs mois, au moins lui enlever ce brassard?
Brassard, bon, déjà vice-capitaine, c'est moins impactant que capitaine. C'est pas toi qui soulève la coupe.
Oui, mais quand même.
Voilà, quand même. D'accord. Mais ce serait déjà reconnaître sa culpabilité dans ces cas-là.
Non.
Donc,
en fait, je n'ai pas.
Le PSG n'a pas.
Oui,
mais
voilà.
Le PSG n'a pas. C'est un club privé. Il n'a pas à dire s'il croit ou pas la victime. C'est pas son truc, en fait. C'est pas la question. Je n'ai pas d'affinité pour le PSG. Tout le monde le sait. Mais dans ce cas-là, tant qu'il n'est pas condamné, il a le droit de faire son travail. C'est exactement ça. On s'était posé la question
s'il
ici.
S'il est condamné, qui fait appel?
Eh ben, tant qu'il n'est pas définitivement condamné.
Un appel, ça remet les choses à zéro.
Oui, mais tant qu'il n'est pas définitivement condamné, il a le droit de continuer. Je suis d'accord pour tout, même pour Bruel. Bruel, il a le droit de chanter s'il veut. Je déteste Bruel. Tout ce qui se passe, il fait ce qu'il veut. Il ne peut plus chanter pour toutes les raisons qu'on sait. Mais on s'est posé la question sur Mohamed Awas, qui est un joueur de rugby, qui lui a été condamné pour violence conjugale.
Oui, et il y avait des images qui étaient particulièrement violentes.
Là, moi personnellement, ça me gênait. Ça me gênait que quelqu'un de condamné puisse continuer à jouer. Et surtout, toi t'es supporter d'un club, à l'époque il était à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, t'étais obligé d'aller voir quelqu'un de condamné pour des violences conjugales. Donc ça, je pense qu'on pouvait se poser la question. Si je suis supporter du Paris Saint-Germain, le jour où, s'il est condamné, si Hakimi est condamné, oui, ça peut me poser question. Voilà, de dire bah non, j'ai pas envie d'aller voir. J'ai moins l'applaudir, voilà. Mais tant que quelqu'un n'est pas condamné, c'est quand même très compliqué de lui dire tu ne peux pas jouer, quoi, parce que en plus il faut replacer aussi l'impact sur sa carrière. C'est-à-dire que quand tu es joueur de foot, c'est une carrière très courte, c'est quelques années. Ta vie professionnelle, c'est 10 ans, 12 ans.
Oui, mais donc, l'impact sur la victime, enfin, pardon. J'entends ce que tu dis.
Mais non, je veux dire, si le procès dure, il faut 3 ans avant d'avoir la décision définitive, c'est-à-dire qu'il ne joue pas pendant 3 ou 4 ans.
Oui, mais la justice, elle doit passer sereinement, et le fait qu'il soit très en avant, que ce soit Bruel sur une scène ou lui sur un stade, dans un stade de foot, la justice, elle ne peut pas passer sereinement si ce mec-là est toujours en situation de pouvoir.
Après, Emmanuel Dancourt, si Achraf Hakimi, s'il est bouché, par exemple, voilà, est-ce que tu penses sincèrement qu'il y aurait eu le même zèle, la même décision s'il n'avait pas été très connu, etc. La justice peut en faire un exemple parce que c'est quelqu'un de très connu, et très bien, parce que ça montre justement que la justice se saisit de ces affaires-là, et tant mieux. Et ça prouve aussi pour plein de femmes en France que porter plainte, ça sert à quelque chose. Mais franchement, le traitement aurait-il été le même si ça avait été
Ce que j'en vois, c'est que les affaires de violences sexistes et sexuelles, là il va y avoir l'appel de Plaza, ça va durer 4 jours, j'ai jamais vu ça, parce que c'est Plaza. Depardieu, il a eu 5 jours de procès, ça aurait dû être plié en une journée. Donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est au contraire, ça les favorise plutôt jusqu'ici, ces affaires-là.
Jacques Legros, est-ce que vous pourriez aller applaudir au Parc des Princes Achraf Hakimi s'il portait encore le maillot du Paris Saint-Germain?
La question se pose même pas, parce que de toute façon j'y serais pas allé.
Oui, ça joue.
Et oui. Mais moi je constate, à vous écouter, qu'on est dans un pays où il y a pléthore d'étoiles, mais pléthore d'étoiles. Et parmi toutes ces étoiles, dans tous les domaines, il y a assez peu de modèles. Et si on veut que notre jeunesse se construise avec des valeurs, je pense qu'on devrait, et nous les médias en premier, montrer des modèles et arrêter de touiller des procès pour des types que je connais pas, moi, je les connais même pas, mais ils ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas. Mais j'ai peur que les jeunes s'intéressent à tout ça et finalement en retirent une forme de mal-être ou en étant trop tolérant ou trop dur, et donc on va toujours vers le jugement, et le jugement c'est l'antithèse de la raison. On ne raisonne pas quand on juge, donc voilà, là, on incite au jugement.
Là, si vous devez raisonner, le Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils doivent garder Achraf Hakimi?
Pour le moment, il n'a pas été condamné. Donc, c'est tout, quoi.
Oui, moi, je me pose même la question par rapport, même si on est d'accord avec Emma, de A à Z. Si le PSG, qu'est-ce qu'il peut faire? Le sanctionner, le mettre à pied, à quel titre? Il y a même un problème. Lui serait même.
Comment ils font en Angleterre, Charles?
Non, mais ses avocats pourraient dire, mais attendez, il n'est pas condamné, il est innocent, il faut le faire.
Oui, mais ça reste un danger, ça reste quelqu'un qu'on met en avant.
Si on est même encore plus terre à terre, ça pose un problème presque économique au PSG.
Ah, mais quoi?
Le joueur est intransférable, c'est ça le problème, c'est l'argent. C'est qu'il est payé des millions, c'est compliqué de transférer un joueur qui potentiellement peut aller en prison dans quelques mois. C'est ça, le risque.
Et puis c'est surtout qu'il peut nous faire gagner. C'est bien ça, le
surtout, tu vas voir, mais admettons le PSG le vire, il y aura d'autres clubs moins scrupuleux qui vont le prendre à moindre prix, mais ils vont le faire jouer, je peux te dire. La plupart des grands clubs, aujourd'hui, il peut jouer partout.
Mais comment nous, la France, on n'est pas capable
de faire... C'est un des meilleurs défenseurs du monde.
Oui, comment la France n'est pas capable de faire ce que fait l'Angleterre? Voilà. Ouais. Ça, c'est un problème. C'est notre pays encore qui ne fait pas son MeToo, qui n'est pas formé sur ces sujets, qui ne comprend pas qu'il y a du droit du travail.
Benjamin Mendy n'a pas... Ah, et c'était des charges beaucoup plus importantes et beaucoup plus de personnes. Joueur français, latéral aussi, de Manchester City, et s'en est sorti avec rien du tout. Voilà. Mais simplement, Emmanuel.
Et après, il a joué à Lorient. Et c'est pas la même chose de jouer. On adore Lorient, mais c'est pas tout à fait la même chose de jouer à Lorient et à Manchester City. Hein.
Imagine, Achraf Hakimi, là, il est mis à l'écart du PSG, et puis le PSG ne le transfère pas. Voilà, en disant. Donc ça dure 2, 3, 4 ans. Et si au bout de 4 ans, il obtient un non-lieu? Comment on fait pour ces 4 ans?
Enfin, on espère que ça.
Tu sais qu'un non-lieu, n'est pas du tout une. Mais c'est bien pour ça qu'on veut faire passer une loi intégrale
dans l'état actuel du droit,
dans l'état actuel du droit, qui ne condamne qu'un pour cent des violeurs. Il faut savoir que dans les rues, il y a 99% des violeurs qui se baladent.
On est d'accord, mais dans l'état actuel du droit, si Hakimi, comme tu le réclames, pendant 2, 3 ou 4 ans, ne fait plus son métier, ne joue plus au football, et que finalement il a un non-lieu où il est déclaré innocent, comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait sur ces 4 ans?
Ouais. Mais ça, c'est le problème de notre justice. Mais exactement. Tu pointes du doigt le problème de notre justice, Fred.
Nous sommes avec Karim, qui nous appelle de Cabane, dans les Bouches-du-Rhône. Il est exploitant en transport. Bonjour, Karim.
Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous?
Très bien, et vous? Alors, avec ce petit accent, on peut être supporter du PSG ou pas, Karim?
Non, impossible. Impossible. Un grand bonjour à Fred Hermel, par contre. Hein.
Salut Karim.
Et tu manques sur RMC, sur l'afterfoot, je te le dis. Hein.
Ah, j'ai d'autres horaires maintenant.
Exactement.
Ouais, il est sur l'après-midi, il est sur les horaires de la sieste. Karim, allez-y.
Moi, je voulais intervenir parce qu'en fait, là, on est en train de faire son jugement avant le jugement en question.
Non.
Achraf Hakimi, en fait, il est pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, on est d'accord.
Là, oui, en tout cas, il n'a pas été jugé.
Voilà, on est en train de parler du système anglais. Fred Hermel, il nous parle de Benjamin Mendy, sa carrière, elle a été ruinée sur des mensonges, parce qu'il a été innocent.
C'est pas des mensonges, hein.
Attendez.
Moi, je suis pas en train de prendre parti d'Achraf Hakimi ou de la demoiselle, parce que si ça se trouve, il lui a anéanti sa vie, comme vous dites. Mais on n'était pas avec eux, en fait, on sait pas ce qui s'est passé. Donc, comment vous pouvez dire que Achraf Hakimi, que les footballeurs sont des exemples pour les jeunes? Mais moi, c'est pas mes exemples, en fait, ces gars-là. C'est des citoyens comme tout le monde. Si Achraf Hakimi l'a fauté, il dégage. Voilà, quoi qu'il arrive, il dégage, il va en prison, tout ce qu'on veut. Mais par contre, si la personne qui est en train de dire qu'Achraf Hakimi l'a violé a menti, on fait comment, en fait, dans l'absolu?
Mais Karim, c'est quoi l'avantage de mentir? Il y a quasiment non, pas de mentir, ça existe quasiment non, pas. Et surtout sur un mec aussi connu, pourquoi il ferait ça? Sachant que dans le droit français, il y a tout à perdre.
C'est déjà arrivé.
Ah, donnez-moi un exemple.
J'ai
pas d'exemple concret.
Eh ben voilà, c'est déjà arrivé, les gens n'ont jamais d'exemple, c'est toujours pareil.
Non, mais il y a déjà des gens qui ont été relaxés ou qui ont eu des non-lieux, Emma. Là, tu es.
Un non-lieu, il n'y a pas eu de jugement, attention.
Mais peut-être, mais en tout cas, la justice passe et la personne a le droit de faire son boulot.
Nous ne sommes pas en capacité de faire notre travail.
Peut-être, mais en tout cas, quand t'as un non-lieu, t'as le droit de faire ton boulot comme avant. Je veux dire, t'as le droit de reprendre. C'est peut-être pas bien, mais c'est le cas, Emma, quoi. Et on peut pas dire, ah ben la justice a dit non-lieu, mais finalement, il est peut-être coupable. Mais sinon, on s'en sort plus, en fait.
Bah oui, mais c'est le problème. Et c'est bien pour ça qu'il faut remettre la justice en cause. La justice n'est pas juste, elle le dit elle-même.
Mais en tout cas, dès lors qu'il y a non-lieu, il y a non-lieu. Mais sinon, on ne vit plus, en fait.
Bah non, mais ça, c'est trop paradoxal. C'est une paresse intellectuelle de dire on se repose sur la justice actuelle alors qu'elle-même.
On se repose sur la justice de mon pays.
Mais oui, mais tu ne peux pas, parce que ta justice, elle n'est pas juste. Et même les magistrats aujourd'hui sont en train de le dire. Non! C'est pas vrai. La justice, c'est pas pour moi qu'elle est pas juste. La justice, elle le dit elle-même. On n'a pas les moyens. On a 80 procureurs en France. Comment voulez-vous qu'elle bosse?
Moi, dès lors qu'il y a un non-lieu, Emma, je suis désolée. Si quand il y a un non-lieu, on ne va pas dans le sens de la justice, on ne peut pas s'en sortir.
Quand on aura notre loi intégrale, on fonctionnera comme la Suède, l'Espagne, on pourra se reposer enfin sur notre justice qui sera juste.
Peut-être.
Aujourd'hui, on peut pas.
Mais pour l'instant.
Elle le dit elle-même, la justice.
On ne peut pas. Et nos seuls outils, c'est de faire ce que dit la justice. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un non-lieu, malgré toutes les convictions, malgré tout ce qu'on peut penser, il faut se dire que il a été acquitté entre guillemets. Ouais. On peut pas s'en sortir autrement. Exactement.
Sinon, il n'y a plus de
justice. Et peut-être que la justice est mal faite.
Si on respecte pas les décisions de justice, il n'y a plus de démocratie.
À partir du moment où la loi est inique, il faut la combattre.
C'est un débat philosophique
qu'il faut donner au bac.
En attendant, il y aura un procès dans quelques mois. Exactement. On n'a pas encore la date.
On espère le plus tôt possible. Exactement. Comme ça, au moins, ce sera plus simple et ce sera plus clair. Merci Karim, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Il n'a plus rien dit, Karim.
On continue à parler de foot, mais avec énormément d'argent. Écoutez.
Ben oui, vous l'avez peut-être entendu hier après-midi sur RMC.
Oh, c'est énorme.
La prime de match a été gagnée. C'était dans le Super Moscato Show. Vous savez que c'est la prime de match RMC pendant la Coupe du Monde. C'est Anthony qui a remporté hier 67 500 euros. Et ben, dès lundi, on remet ça. Une nouvelle prime de match. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en envoyant but au 732-16, but par SMS au 732-16. Alors la première prime, c'était 67 500 euros. Quel montant pour la nouvelle prime? Réponse lundi. Et dès maintenant, vous vous inscrivez, but au 732-16.
Dans un instant, dans Estelle Midi, le répondeur de Pierre-Antoine Damecourt, les meilleurs messages laissés au 32-16. Et puis, à 14h, on se posera cette question. Médecin, resto, coiffeur, demandez un acompte, bonne ou mauvaise idée. Vous nous appelez 32-16 ou le WhatsApp d'Estelle Midi.
Le 06 12 424 424 pour tous vos messages qu'on va lire en direct.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est le répondeur de Pierre-Antoine Damecourt. Les meilleurs messages laissés au 32-16. Et comme c'est vendredi, c'est le best-of.
RMC, Estelle Midi,
le répondeur de Pierre-Antoine Damecourt.
Ah,
Salut, c'est Jérémy Jonzac. Alors, vous avez vu, le président équatorien a supprimé la TVA sur l'alcool pendant toute la Coupe du Monde. Eh ben ça, monsieur, c'est très classe. C'est une très, très grande classe. Je dis bravo, monsieur. Et mesdames, messieurs, nous allons commencer notre descente vers Quito. Merci d'attacher vos ceintures, redresser vos tablettes. Tapez NC au porte de mer. Allez, vamos à l'Équatoria.
Avec modération et toujours.
Mais c'est une vraie info, hein, vous vous rendez compte, moins 20% sur toutes les boissons alcoolisées pendant toute la Coupe du Monde. Ça va pas les aider tout
un
ça.
Un peu démago, ouais.
Et je pense qu'on a perdu Rémi Jonzac.
Ouais. Voilà. Bon voyage, Rémi. Bon voyage. Allez, message suivant.
Oui, bonjour, Jojo Dramatuel. Bon, je suis un grand fan de votre émission, mais là, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que je vais regarder l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Voilà, petite infidélité, mais c'est quand même le président, alors... attendez. Oh, vous faites un tu préfères Ratatouille ou Piprade ? Oh, bah non, bah ça change tout. Alors là, ça c'est de la grande téloche. Mais eh oui. Ben, au chat, Macron, c'est vous que je vais regarder.
Ah, mais oui.
Bravo.
Le tu préfères, c'est tellement plus utile que l'interview d'un président de la République.
Petite chippie, c'est maman. Bon, je suis avec Marie-Claude aux States là pour la Coupe du Monde. Et devine où on est parti en pleine nuit. On est devant l'hôtel de l'équipe du Sénégal. On met un boucan d'enfer pour les empêcher de dormir. On va chanter une chanson, celle-là elle est pour toi, ma Estelle, je sais que tu l'adores. La 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 victoire de Didier Deschamps. Ça a marché, ils dorment pas.
On parle pas comme ça, madame Denis.
Non, mais c'est fou,
c'est
ça,
pas
quand
très
même.
Fair play quand même d'aller réveiller les joueurs adverses, mais bien joué quand même.
Elle connaît bien mes goûts musicaux.
Ah ouais, bon, il y en a qu'un de toute façon. Hein. Bruel et Sardou, et Bruel c'est fini, Bruel, donc il n'y a plus que Sardou. C'est fini. Quoi que je suis sûr qu'elle écoute quand même en fermant bien ses fenêtres dans sa mini. Elle est là
avec les écouteurs.
C'était dit rendez-vous. Non,
je l'ai enlevé de la playlist.
C'est bien, bravo Estelle.
C'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Quelle tristesse, cet accord avec l'Iran, ce détroit d'Hormuz, il était tellement beau quand il était fermé. On s'est tellement gavé, Estelle. Oh là là, on savait même plus où mettre nos billets. J'ai même pas fini la piscine sur toi de mon jet privé. Comment je fais, moi? Alors c'est décidé, je suis en route. J'attaque l'Iran tout seul. À mort les gardiens de la Révolution.
De toute façon, ça va aller, hein, Patrick, hein, parce que vous savez, le prix de l'essence, c'est tout le contraire d'un verre de rosé pour Estelle en été.
Je
ça descend
pas.
Toujours moins vite que ça monte.
Hein. Je ne bois pas.
Oui, oui, oui.
Bah oui,
ils
enfin,
disent tous ça.
Et moi,
disent,
c'est vrai.
Ils disent tous ça.
Message suivant.
Coucou mes petits chatons, c'est Françoise. Bon, il est 1h du matin, je regarde Irak-Norvège et j'ai chaud. Ah non, c'est pas les températures, c'est Erling Haaland. Impossible de dormir avec un beau viking comme ça. Alors Estelle, toi qui connais le monde du foot, trouve-moi son numéro. Je veux être son dracard et je lui ferai visiter mon petit fjord. Bisous, bisous.
Oh non, mais mon
alors,
Dieu,
attention,
la lourdeur
de Françoise. Et attention parce que Estelle est sur le coup, hein, Erling Haaland.
J'adore, mais pas du tout. Mais non,
si, vous avez dit, il est beau.
Non, pas du tout. C'est pas du tout. Je n'aime que les bruns.
Ah, et les vieux.
Et les plus. C'est pas mon genre.
Voilà, on aura compris.
Oui, bonjour, c'est Myriam d'Arcachon. Vous avez vu, 56% des femmes disent s'ennuyer au lit lors de leur rapport sexuel. Eh ben vraiment, ça m'étonne pas du tout. Là, moi, je suis en train de finir mon tricot et je me disais que... Attendez. Oui, Jean-Claude. Ah, c'est bon, t'as fini. Bah, c'est pas trop tôt. Oui, c'était super. Oui, t'es un bon coup. Allez, va prendre ta douche. Maintenant, je vais dormir, moi. Bon, bah voilà, j'ai fini mes 6 mitaines pour toute l'équipe de RMC cet hiver. Bisous, bisous.
Sympa. 56%. Ça fait beaucoup. Ça fait une femme sur deux qui s'ennuie. Donc, c'est soit Estelle, soit Yaël.
Un peu plus. Bah, c'est Yaël.
C'est Yaël. Oh, ça balance. Yaël, répondez. Vous pouvez pas rester comme ça.
Mais non, mais moi, y a pas. Donc,
y a pas. Oui, ouais, bah, donc, s'il y a pas, il peut pas y avoir. Bah,
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt tous les jours 13h50 dans Estelle Midi et bien sûr en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, on va se demander si les médecins, les restaurants ou les coiffeurs devraient demander un acompte pour éviter les rendez-vous non honorés. Est-ce que vous seriez prêt à payer 10 ou 20 euros avant d'aller au restaurant pour comme réserver votre place? Bah écoutez, on en débat avec vous dans un instant au 32-16.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.